c'était le culte. Et puis, à la fin du culte, je fais mon ministère. Et puis, le pasteur à côté de moi faisait son ministère. Moi, j'étais en train de prier pour quelqu'un. Et puis, je vois la personne qui se met à tourner devant le pasteur de la même façon, à l'autre bout. Puis, tout le monde, ah oui, dans l'esprit. Et puis, toujours le même malaise. Et tout d'un coup, il me vient dans la tête, derviche tourneur. Et derviche tourneur, c'est du chamanisme. Hein. Ça fait partie, je vous en parlerai cette semaine, mais c'est un des techniques pour faire le vide de l'esprit. Dans le New Age, on vous fait faire le vide de l'esprit. Dans le yoga, on vous fait faire le vide de l'esprit. C'est pour laisser des esprits rentrer. Il n'y a pas de vide dans la nature. La parole de Dieu nous dit, soyez remplis, faites pas le vide. Hein. Bon. Alors donc, il faut toujours regarder un petit peu ce que dit la parole parce que les gens nous disent dans le monde, parce que tout ça a l'air bien séduisant, mais il faut bien connaître la parole pour dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je la voyais tourner de là, et il me vient le mot derviche tourneur. Et je savais que derviche tourneur, c'est du satanisme pour attirer des esprits, de prophéties, de guérison, des esprits qui imitent les dons de Dieu. Et je suis prise du sein de colère. Et de loin, je dis maintenant, au nom de Jésus, toi esprit de chamanique qui va sortir de cette femme. Elle a fait un vol plané. Bzoum! Et là, j'ai dit, maintenant je ne me ferai plus jamais avoir. Maintenant, je sais que dans ces soi-disant danses de l'esprit, il y a des choses qui ne viennent. Bon, quelquefois c'est la chair, ça on voit très bien, mais quelquefois c'est tout simplement des choses qui viennent réellement d'esprit démoniaque, chamanique, de sorcellerie. Alors les sirènes, quand elles vous tournoient comme ça, quand elles tombent au sol. Vous savez, moi, quand je prie pour les gens, si quelqu'un tombe au sol, je ne dis pas « c'est le Saint-Esprit qui l'a fait tomber hein. ». Parce que ça peut être le Saint-Esprit, mais ça peut être le démon. Parce qu'ils ne supportent pas l'onction et qu'ils font se soustraire la personne à l'onction. Donc quand la personne tombe par terre, je commence par regarder ce qui se passe. Si je commence à voir les mains qui tremblent, les yeux, parce que les démons tremblent. Les paupières qui tremblent, les lèvres qui tremblent. Dis, ah oui, toi, tu croyais t'échapper. Allez, hop, à la casserole. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui fait tomber les gens. D'accord ? Amen. Donc, simplement pour vous dire qu'il y a beaucoup de séduction aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les trucs. Les chrétiens courent de séminaire en séminaire. En dehors de ceux de Michel Dastier, à mon avis, il faut être prudent. Bon. Je ne dirais pas ça, il y a des séminaires formidables, bien entendu. Et il y a des loin des lieux formidables qui nous viennent d'un peu partout, gloire à Dieu. Mais soyons prudents parce qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses où on vous sert vraiment d'une fausse nourriture spirituelle, on vous sort des faux esprits, on vous sort des trucs qui ne sont pas... Et si on n'est pas dans la parole, on ne verra même pas, on n'y verra que du feu. Et on va attraper d'autres esprits. Et il y a des gens qu'on doit délivrer, qui sont passés dans des relations d'aide où ils ont attrapé plus d'esprits qui n'ont été délivrés. Moi, j'ai dû délivrer des gens. Bon, là, c'est évident, mais j'ai dû délivrer des gens qui me disaient, moi, j'ai été délivré. T'as été délivré où? Dans l'Église catholique. Oh, très bien, sympa. T'as été délivré au nom de qui? Ah bon, j'ai été délivré au nom de Marie. Oh, ils ont été délivrés d'un truc, mais alors, ce qui est rentré à côté... Satan est très content d'en faire partir un pour en faire rentrer 10 autres, vous savez. Alors, très bien. Attendez. Les démons n'obéissent qu'au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, quelquefois, on doit délivrer les gens de leur délivrance. Attendez, il faut le faire quand même. Vous riez, mais ça m'est arrivé assez souvent. Je suis sûr que ça t'est arrivé au sigil. Puis Laurence aussi, bon, on a l'habitude. Enfin, sixième plan, qu'il ne faut pas négliger. Normalement, il est écrit que celui qui est en Dieu, le diable ne le touche pas. Malheureusement, on a souvent des petites choses qui donnent des accès. Et puis, il ne faut pas sous-estimer. Parce que la parole de Dieu nous dit de combattre, de mener le bon combat. On est en guerre. On est en guerre. Il y a un déchaînement. Moi, le Seigneur me l'a fait vivre, mais il y a un déchaînement des sorciers, des satanistes, des illuminati, ils rentrent dans les églises, etc. Bon, je le dis parce que c'est la vérité, hein. Francs-maçons et compagnie, ils sont dans les églises quelquefois plus au poste, hein. Et on peut être complètement lié, même par des prières faussement chrétiennes. Des gens ont reçu des malédictions de pasteurs qui leur ont dit « si tu pars d'ici, tu vas mourir ou tu vas être malade ». Enfin, attendez, on entend des trucs. Et comme c'est fait au nom de Jésus, je vous assure que derrière, il y a des malédictions réelles. Réelles. Mais en plus, on peut être attaqué par les sorciers. Moi, au début, je rentrais d'Afrique, je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait. Les deux premiers jours, ah, j'étais dans une forme, une pêche, l'onction de Dieu, j'étais prête à continuer. Et puis, deux jours après, par terre, cassé, démoralisé, découragé, complètement crevé. C'était tout juste si je n'étais pas suicidaire. Et un jour, j'en parle à un ami, un pasteur africain qui connaissait bien la délivrance, puis il me dit, mais Michel, c'est normal, parce que quand tu vas là-bas, bon, très bien, tu es couverte par toute l'intercession des uns, des autres, on te couvre, etc. Donc ça se passe très bien, mais au retour, tu reviens, tu es toute seule. Dans ton église, on ne prie pas pour toi, personne ne prie pour toi, et les démons, il faut savoir que dans le monde, il y a des territoires pour les démons, c'est très bien expliqué dans la parole. Il y a des territoires. Alors, les démons, ils vous poursuivent, les sorciers vous poursuivent, mais ils ne peuvent pas rentrer dans un autre territoire comme ça, il faut qu'ils négocient. Vous savez, le monde démoniaque, il est très similaire au monde humain qu'on voit. Le monde visible est le reflet de l'invisible. Alors, comme le monde entier est sous la puissance du malin, on peut dire que le monde visible, il est assez similaire à ce qui se passe dans l'invisible, dans le monde démoniaque. Il y a des négociations qui se passent dans le monde démoniaque. D'accord ? Parce que chacun a son territoire. Rappelez-vous, pour le gadarénien, il supplie Jésus de ne pas les envoyer hors de leur territoire. Hors du pays. Parce que là, ils sont chez eux. Alors, moi, j'étais tranquille, mais après, les démons, des sorciers qui voulaient me détruire, plus tous les esprits avec lesquels ils travaillaient, ils me poursuivaient, et puis deux jours, trois jours après, j'étais par terre. Et là, si j'avais personne qui me priait pour moi, je mettais beaucoup de mal à m'en remettre. Alors j'ai compris qu'après, je devais aller chercher une équipe de combat qui prie pour moi pour contrer ce qui a été fait. Donc il y a aussi des délivrances qui peuvent être besoin d'être faites. Ceux qui pratiquent beaucoup la délivrance ont souvent besoin d'un peu de délivrance eux-mêmes. Parce qu'il arrive qu'on en ramasse un peu au passage quand même. Un peu au passage parce qu'on n'est pas nickel dans tout. Parce qu'on a encore des petites entrées. Hein ? Personne qui est parfait, personne n'est parfait. Alors, quelquefois, il nous arrive de ramasser un peu et on a besoin régulièrement de petits nettoyages. Bon, alors donc, ça, c'est les grands domaines de la délivrance. Maintenant, on va aborder qui peut faire de la délivrance. Alors, qui peut faire de la délivrance ? La parole de Dieu est absolument claire, sans le moindre doute. Tout disciple de Christ, je dis bien disciple, pas croyant. L'Église aujourd'hui fabrique des croyants, mais Jésus nous a dit de faire des disciples. Il y a un abîme entre les deux. Tout le monde s'arrête à celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais la parole de Dieu, on la prend. C'est un tout. Déjà celui qui croit dans son cœur que Jésus est ressuscité des morts. C'est-à-dire vraiment qui a compris tout là ce que Dieu a fait. Déjà, il faut vraiment avoir une révélation de ce que Dieu a fait. Ensuite, la repentance. Ensuite, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais être un disciple. Mais qui ? Donc, combien il y a de disciples aujourd'hui dans les églises ? Est-ce que vous savez que Jésus, le salut est gratuit ? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas conditionnel. Et ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas mis la barre très haut. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jésus nous a demandé de faire des disciples ? Vous savez, les croyants ne vont pas tenir dans les temps qui viennent. Hein ? Ils ne vont pas tenir. Aujourd'hui, si on n'est pas un disciple à part entière, être un disciple, c'est on coupe avec le monde. La sanctification, ça veut dire la coupure avec le monde. On est étranger et voyageur sur terre. Notre notre monde n'est plus ici. Notre royaume, on n'est plus dans le même royaume. On a été transporté de ce royaume du diable dans le royaume de Christ, par l'Esprit de Dieu. On est assis dans les lieux célestes. On ne peut pas avoir un pied sur terre et un pied dans le ciel. C'est un peu grand écart, quand même, à mon avis. Bon. Mais Jésus a mis la barre très haut pour ce qui est des disciples. Et si on n'est pas disciple, effectivement, on ne va pas avoir l'autorité. Parce que l'autorité de Dieu, elle est donnée aux disciples. Luc 10, Jésus, il appelle, il nomme. Il est dit, Jésus nomma 70 nouveaux disciples. C'est Jésus qui sait si on est disciple ou pas. Il connaît ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. On peut être disciple depuis 5 minutes. Hein. On peut être converti depuis 5 minutes et être un disciple. Hein. Ça veut dire que dans notre cœur est circoncis, qu'on a décidé de changer de vie, qu'on a décidé désormais de marcher avec le Seigneur. On peut être disciple depuis 5 minutes, on a reçu l'autorité. Mais on peut être depuis 30 ans dans une église, pas être disciple et n'avoir aucune autorité. Autorité contre les démons. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, etc. Les dominations. Bon. On y reviendra peut-être dans la semaine, même si on... Donc, Jésus nomma 70 nouveaux disciples. Ils étaient à peine nommés. Et qu'est-ce qu'on dit ? Eh, à la ville, allez prêcher. Il ne leur a pas dit « Asseyez-vous dans la synagogue pendant 25 ans. Au bout de 25 ans, vous viendrez co-pasteur. Surtout, n'imposez les mains à personne. Surtout, ne priez pour personne. Il n'y a que le pasteur qui doit tout faire. Je les vois spécialement comme homme orchestre pour tout faire. » C'est pas tout à fait ce qui est écrit dans la parole. Mais à mon avis, il y a deux Bibles. Il y a une Bible pastorale et il y a une Bible... Enfin, Gilles et moi, on a quand même la même Bible. Hein. Mais il y a des pasteurs qui ont une Bible pastorale. C'est pas tout à fait la même Bible que celle qu'on trouve normalement à la CLC ou ailleurs. Hein. Donc il y a d'autres choses dedans que moi, j'ai jamais vues. On va lire. Oh, ça commence bien la semaine. On va lire Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc c'est le Seigneur qui connaît qui a un cœur de disciple. Et il les envoya deux à deux avec lui dans toutes les villes et devant tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, avant, il les envoie devant, il leur les envoie préparer le chemin. Il a dit, allez, allez. Et il les envoie prêcher. Et ils reviennent. Waouh, les démons même nous sont soumis. Tout contents. Ils sont éblouis par l'autorité qu'ils ont reçue de Dieu. Ils étaient pourtant tout neufs. Hein. Ils sont éblouis de la puissance de Dieu et de l'autorité qu'ils ont reçue. Les démons même nous sont soumis. Ils ont fait tout le long, ils ne savaient même pas peut-être à l'avance qu'ils allaient le faire. Ils ont fait des délivrances tout le long de leur route. Ils ont vu des miracles de Dieu. Et Jésus va leur dire, à eux, aux disciples, « Je vous ai donné le pouvoir. » Luc 10, 19. « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Même si on a des contre-chocs, ils nous serviront. Ils nous serviront quelquefois à vous montrer quels sont les domaines de notre vie qui ne sont pas purifiés. Moi, ça m'est arrivé. Je dis, oulala, Seigneur, j'ai eu une contre-attaque là. Je dois être encore purifié dans ce domaine. Oh, j'avais oublié tel péché. Oh, j'avais oublié ça. Rien ne pourra vous nuire. En Luc 9, il est dit, Luc 9, 1, Jésus ayant à l'assemblée les 12, leur donna force. Vous vous souvenez le mot force tout à l'heure? Moi, du Saint-Esprit et de force, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Ça va ensemble. Avec. Je vous donne la puissance sur les démons et vous allez automatiquement recevoir également le moyen de guérir les malades. C'est complètement lié. Amen. Alors donc, tout disciple. Alors, mais par contre, qui est un disciple? Alors premièrement, il n'y a que Jésus qui connaît ce qui sont les disciples. Les gens le savent, quand ils sont des disciples. Ils savent pour qui ils marchent. Ils savent quel est leur patron. Ils savent quel est leur maître. Amen. Disciple de Christ, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? C'est celui qui veut ressembler à son maître. Qui est simplement, qui aspire à ressembler à son maître et à faire les œuvres que son maître a préparées pour lui. Parce qu'il sait que seules ces œuvres-là vont être bonnes. Amen. Parce que c'est Dieu qui va les faire à travers lui, pas lui qui va les faire. Jésus lui-même, Jésus homme, disait, je ne vois que les œuvres que je vois faire au Père. Et nous, on est plus fort que lui. C'est-à-dire que Jésus voyait ce que Dieu avait préparé pour lui et il faisait ce que Dieu lui montrait. Être un disciple, c'est être soumis totalement à Dieu. Amen. On va lire une définition de disciple. On va prendre Matthieu 16, 24. Il y en a beaucoup de définitions de disciples. Elles sont très, la barre est très élevée. Vous savez, quand on lit « Il ne peut être mon disciple s'il ne hait son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants. » Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous demandes là? Et tu nous as dit d'aimer notre prochain. Mais Dieu, quand on parlera des liens d'emprise, on parlera des liens qui sont des liens malsains, qui ne sont pas du tout des liens de sang, qui sont souvent qui nous empêchent de marcher avec le Seigneur. Même Jésus, il a dû écarter sa mère et ses frères pour accomplir son ministère et pour mieux les sauver, car ils ont tous été sauvés à la fin. Alors donc, Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même. » Oui, aïe, aïe. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que ça implique, renoncer à soi-même? Ça veut dire renoncer à son propre avenir, à ses propres ambitions, renoncer à tout ce qu'on avait organisé pour sa propre vie. Seigneur, je mets tout ça sur l'autel. Seigneur, ce qui est important, c'est que maintenant, je devienne dans ta main un instrument qui va apporter et qui ne peut que qu'en étant cet instrument. Ce que tu as promis, des fleuves de vie qui vont sortir de son sein. Seigneur, ce n'est pas moi qui peux les produire, ces fleuves de vie. Mais si je meurs complètement moi-même, renoncer à soi-même, c'est on meurt à soi-même, on meurt à ses ambitions, on meurt à ses désirs, on meurt à ses inquiétudes, on meurt à son passé, on meurt. Seigneur, d'accord, je mets tout ça sur la table, maintenant je suis morte. Je suis morte, je suis ici, mais mon moi, il est mort, il a jusqu'à se taire. Ça ne veut pas dire que vous allez être privé de votre individualité, ni de votre personnalité, ni de vos capacités, mais ça va être complètement sanctifié par le Seigneur et ça va être totalement transformé. Et ça, être à la gloire de Dieu et non plus à notre propre gloire. Ça va être complètement... En général, le Seigneur se sert de toutes les capacités qu'il nous a données et nous en donne beaucoup plus. Moi, j'ai essayé pendant 30 ans d'être écrivain. J'ai écrit plein de livres, les éditeurs n'en voulaient pas. Pourtant, c'était une littérature absolument inoubliable. Elle était tellement inoubliable qu'elle a été complètement oubliée, y compris de moi. Je ne l'ai jamais pu trouver et j'avais complètement renoncé à être écrivain. Je me convertis, 4 mois après, je me retrouve en train d'écrire mon premier livre, 15 jours pour écrire 300 pages, 500 versets bibliques, alors que je ne connaissais pas la Bible, je n'avais jamais entendu parler d'une concordance, et je me trouve balancé à Ex Libris. Et ce livre amène beaucoup de gens au Seigneur. Il a amené beaucoup de gens au Seigneur. C'est la folie de Dieu. Mais quand on lui donne sa vie, j'avais la capacité d'écrire, j'avais le don d'écrire, j'avais appris. Je savais faire, mais je n'en faisais rien sauf des choses mauvaises. C'est Dieu le reprend et hop, immédiatement, ça devient un instrument dans ses mains pour le salut. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est complètement fou, ça nous dépasse complètement. C'est inénarrable. Être disciple de Christ, c'est Dieu qui va vivre à travers nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit Paul. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus... Non, on est tous uniques. Mais Dieu a un autre plan, une autre vie, une autre destination. Tout ce qu'on va faire va être désormais, ça va être pour Christ et avec Christ, surtout avec Christ. Fais attention de pour Christ, Seigneur, je fais ça pour toi. Non, on ne fait pas les choses pour Dieu, parce que Dieu n'a besoin de rien. Mais on le fait par amour pour Dieu, ce qui est très différent. Et puis, par amour pour les autres, parce que Dieu nous communique son amour pour les autres. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Quand c'est Dieu qui agit à travers nous, on est émerveillé. Émerveillé. On comprend le sens de notre vie. Les gens sans Christ ne comprennent pas le sens de leur vie. Ils cherchent leur identité, ils cherchent leur truc, ils cherchent toujours à prouver quelque chose, ils cherchent toujours à prouver leur valeur, ils cherchent toujours à prouver qu'ils sont au-dessus de ceci, au-dessus de cela, n'importe quoi. Mais quand on devient disciple de Christ, on meurt à soi, mais le Seigneur va utiliser tout ce qu'il nous a donné et va le mettre à sa gloire. Et s'il nous renonce complètement à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Mais qu'est-ce que c'est que sa croix ? Est-ce que vous croyez que c'est un gros morceau de bois que vous allez traîner tous les jours avec vous ? Jésus a dit, mon joug est léger. Sa croix de bois, d'ailleurs, il ne l'a pas portée. Sa croix, c'est la mission, c'est le but ultime. Dieu nous a tous préparés pour des services, pour des ministères, pour des missions, peu importe où on soit appelé. Il y en a dans la Bible, ils ont eu juste une mission importante à faire. Par exemple, Étienne, sa mission principale, ça a été de parler devant le Sanhédrin et de commencer à labourer le cœur de Paul. Et il n'a jamais même vu le résultat. Il est mort avant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça ne l'empêchait pas, tous les jours, de servir aux tables. Il faisait un petit travail très humble au milieu des chrétiens. Ça faisait partie de sa croix. C'était sa mission. Amen. Il n'y a pas de petite ni de grande mission dans le corps de Christ. Il y a simplement des choses que Dieu a préparées d'avance et il nous a préparées pour le faire. Vouloir faire la mission que Dieu ne nous a pas préparée, on va le faire par notre chair et on va faire des dégâts. Alléluia. Marcher par l'Esprit de Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit de Dieu nous conduire. Et oublier notre moi, il n'en a rien à faire, il doit être cloué à la croix celui-là. Non, notre foi, ça va rester tout ça. Alléluia. Alors, celui qui voudra sauver sa vie. Ah Seigneur, je veux sauver. C'est pas sauver sa vie, il n'y a pas que la vie physique. Ah non, mais Seigneur, je veux sauver mon héritage, je veux sauver mon boulot, je veux sauver ceci, je veux sauver. Dieu ne va pas vous mettre le lendemain matin, il ne va pas vous mettre dans le chômage, dans la misère, dans le truc. C'est pas du tout biblique ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous fera pas passer par des tas d'épreuves. Et plus il nous appelle en général dans des grandes missions, plus il nous fait passer à la moulinette. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui a dit Amen. Tu peux dire Alléluia ? Alléluia. Alors, tout disciple reçoit l'autorité de Dieu. Et l'autorité est dans le nom de Jésus. Alléluia. Son nom est au-dessus de tous les noms. On ne chasse pas en notre nom propre. Et on a un exemple remarquable avec les fils de Séva. Ils sont là. Ils sont... Ah, comment ? Nous, on est les fils du grand sacrificateur en acte 19. Vous trouvez ça ? Oh ! Nous, on a été élevés dans le bénitier. On fait partie du sérail. On a été éduqués dans les meilleures écritures. Et puis là, cette espèce de petit machin, là, Paul... d'abord, lui, c'est un traître. Parlons pas de Pierre, c'est tout juste qu'il sait écrire. C'est un pêcheur, Berg. Matthieu, un PAG, poif. Et puis n'en parlons pas. Bon. Rien que des gens vils et méprisables aux yeux du monde. Ils supportent pas, eux, les fils du grand sacrificateur. Et ils disent, ils doivent avoir un truc là. Et ils arrivent devant un bonhomme. Ouais, toi, au nom du Jésus que Paul prêche. Et vous vous souvenez de ce que répondent les démons ? Oh, on connaît Jésus, on connaît Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? Vous savez que plus vous ferez des délivrances, plus vous vous apercevrez que le monde des ténèbres vous connaît et vous croit, vous craint. C'est impressionnant. Moi, j'ai été très impressionnée les premières années. Il y, Il y avait des gens qui me disaient, mais dis donc Michel, mais quand on a su que c'était toi qui devais venir comme oratrice 8 mois plus tard, ça fait des mois qu'on tremble, et on a dit qu'on serait ce jour-là, on serait porté pâle, qu'on viendrait pâle. Je dis, pensez bien, et hop, moi je sais qu'il y a peur. Ils nous connaissent. Ils savent ceux qui utilisent l'autorité que Dieu leur a donnée. Et ils les craignent. Amen. Mais des gens qui ne connaissent même pas Jésus, ils n'ont aucune autorité. Les fils de Sévan n'avaient aucune autorité. Ils se sont enfuis. Ils en ont pris plein la figure et sont partis. Alléluia. Alors, vous n'avez... C'est l'heure. J'ai prêché quoi, 3 heures? Je fais des progrès. Ben, je suis désolée, mais il me reste quand même quelque chose de très très important à dire. C'est le plus important. Ah! Comme d'hab. Bon, alors je vous ferai grâce de la manière, on en parlera dans la semaine, de la manière dont on se prépare à la délivrance. Je vous ferai grâce du fait qu'on ne fait pas ça ni pour la gloire, ni pour l'argent, ni rien. Parce qu'en général, on le fait en secret. Et qu'en plus on en prend plein la figure, on se fait têter tous les noms d'oiseaux. Quels sont ceux qui n'ont pas entendu dire qu'une certaine Michèle Dastier, c'était une sorcière, une Jézabel, une... Levez la main parce que je ne pense pas qu'il est... Non, vous n'avez jamais entendu. Vous êtes trop jeune dans les églises, sinon vous n'auriez entendu dans toutes les couleurs. Non. Ou alors vraiment vous étiez dans des églises qui ne me connaissaient pas du tout.
Pas plus tard que la semaine dernière.
On est... en général, les gens qui se mettent à faire la délivrance, très souvent, s'ils sont dans beaucoup d'églises, ils se font éjecter de leurs églises. Mais on obéit à Dieu ou aux hommes? Alléluia. Amen. Alors, les obstacles à la délivrance, c'est extrêmement important. Vous savez, Osée 4:6, on le cite tout le temps. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Notre manque de connaissance. Si on partage ça cette semaine... C'est pour vous faire partager nos expériences, nos erreurs, tout ce aussi que le Seigneur nous a appris pour faire gagner un temps fou. Parce que moi, la plupart des choses, j'ai dû les apprendre sur le tas, petit à petit. Il n'y avait personne pour m'enseigner, parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Mais ça suffit comme ça, parce qu'on est, on peut pas être 3 pour des millions de personnes à délivrer. Donc il faut partager tout ce qu'on a reçu pour que ça se multiplie. Il faut que ce ministère qui est tellement important soit restauré dans l'Église. Alléluia. Amen. Donc on est là simplement pour partager. J'ai dit, on apprend tout le temps. Moi, plus j'avance, plus je sais que je ne sais rien, mais plus on est quand même efficace, parce que Dieu est bon. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est que si vous prenez l'autorité, si vous avez l'amour, et vous savez que vous avez l'autorité, Dieu vient au secours de notre ignorance, et on voit quand même des choses magnifiques. Alléluia. Matthieu 17:20, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, je vous passe sur la montagne qui parle dans la mer, elle parle dans la mer. Il y a 3 petits mots derrière, rien ne vous serait impossible. Alléluia. Bon, ça c'est notre premier obstacle, c'est notre propre manque de foi. L'inhibition aussi. Très souvent, on a été mis dans des églises qui nous ont dit, pas toi, il faut laisser faire le pasteur. On vous a raconté des trucs qui ne sont pas bibliques. Ce n'est pas une excuse devant Dieu, parce que Dieu vous dira, « Moi, je t'ai donné l'autorité et tu n'avais qu'à le lire et tu n'avais qu'à le faire. » Parce que vous ne viendrez pas devant le tribunal de Christ avec votre pasteur. Hein? Vous y serez tout seul. Deuxième chose, ça c'est la plus grave aujourd'hui, les mauvaises conversions. Je vais quand même prendre le temps de lire 2 Timothée 3. 2 Timothée 3:1. Comprenons bien à quel type de chrétien nous allons avoir le plus à faire et pourquoi on a tellement de mal et pourquoi souvent on est obligé de reposer tous les fondements de la parole avant de pouvoir faire une délivrance. C'est triste, tellement les gens ont été mal nourris. Un faux évangile, un faux Jésus. Et avec des faux esprits. Sache que dans les derniers temps, dit Paul. Est-ce qu'on est dans les derniers temps? Oui. Il y aura des temps difficiles, car les hommes... Alors on va se dire, ouais, c'est les païens. Eh bien, vous allez oublier ça, parce que Paul parle de gens qui se disent chrétiens et qui vont dans les églises, et vous allez le voir après. D'accord? On parle de gens qui vont culte, qui prient Dieu, qui aiment Dieu, dit le texte. Qui aiment Dieu, mais qui aiment leur plaisir plus que Dieu. Alléluia. Donc on nous parle de chrétiens des derniers temps, de gens qui disent chrétiens, mais qui aux yeux de Dieu ne le sont pas. J'ai oublié de vous dire une chose. J'ai pas eu le temps. Gilles va me tirer les oreilles. Mais qui on peut délivrer? Plus les gens marchent avec le Seigneur, plus ils sont disciples, plus ils sont faciles à délivrer. Des gens, on peut quelquefois, en une minute, on voit sortir des très grosses puissances parce que ces gens en veulent et marchent avec le Seigneur. Nos plus grandes réussites, c'est avec des gens qui vraiment sont consacrés à Dieu, vraiment consacrés. Parce que le diable n'a pas de droit du tout. Donc, là, on va lire. Car les hommes seront, vous allez dire pas moi. Eh bien, faisons attention, parce que Paul dit que ce seront les chrétiens des derniers jours, mais il ne les appelle pas chrétiens, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Vous n'avez pas l'impression de décrire le monde qui nous entoure, y compris dans l'Église? Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il n'y a pas de pire ennemi des chrétiens. Ce ne sont pas les démons, ce sont ceux qui se disent chrétiens qui ne le sont pas. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Donc ils aiment Dieu. Les païens n'aiment pas Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Ils disent des alléluia tout le temps, moi aussi. Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là, dit Paul. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà, la plupart du temps, les gens que l'on rencontre sont dans cet état-là. Donc, je dirais que c'est le plus grand obstacle. Vous savez, si Jésus, tous les gens, les délivrances se faisaient comme ça, et Paul les apôtres aussi, c'est pas parce qu'ils étaient des hommes différents de nous, c'est parce que les gens qu'ils avaient en face d'eux étaient différents. Il y a aussi des différences qu'ils voient chez nous, hein, attention. Mais en face aussi, ils avaient des gens qui craignaient Dieu, qui avaient fait le baptême de repentance, qui connaissaient la loi de Dieu, qui savaient que sans sauveur, ils étaient perdus. Nous, on est obligés quelquefois de tout reprendre à zéro.